Cinérama.
Cette nuit, notre plistron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Donc, nous sommes le mercredi 20 juin. Nous sommes en équipe pour l'instant réduite puisque Marine va nous rejoindre en cours d'émission. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et puis, on dit bonjour à notre invité Stéphane Bouillet.
Bonjour,
qui est le directeur donc du Chat qui fume, éditeur de DVD Montpellierin. Et peut-être le seul.
Alors Montpellierin depuis 6 mois et on n'est pas le seul.
Ah,
il existe Artus aussi.
Voilà, Artus,
ah oui, Artus, oui. C'est les deux qui sont cités régulièrement dans l'émission grâce à Manu qui fait ses chroniques. Merci. Alors Manu, au cours de cette émission, eh bien, forcément on parlera du chat qui fume. Quel est ce métier d'éditeur de DVD? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Ensuite, eh bien, Marine, quand elle nous rejoindra, viendra nous parler de Blanche-Neige et de Starbuck. Starbuck qui sort la semaine prochaine et qu'elle a vu en avant-première. Elle nous fera un petit blind test aussi autour des séries adaptées au cinéma. Donc on pourra jouer tous ensemble. Moi, je ferai un petit topo sur la fête du cinéma. Moi, je suis en service réduit. Et puis toi, Manu?
Je vais vous parler de deux sorties DVD. Donc la première, c'est le nouveau film de Balaguerro, Malveillance, qui sort donc chez Wildside. Et le deuxième, c'est un petit film, donc je vais juste dire un petit mot, qui s'appelle Don't Be Afraid of the Dark. C'est une production de Guillermo del Toro.
Donc la première partie de ce cinérama, c'est plutôt la série B.
Cinérama sur Divergence FM.
Donc Malveillance, d'ailleurs c'est pas vraiment une série B, hein, c'est vraiment un film classique, je dirais. Donc sorti dans une indifférence plutôt polie au moment des fêtes de Noël, choix d'ailleurs peu judicieux en regard de la noirceur du produit, Malveillance est pourtant un excellent thriller psychologique et certainement, à mon avis, le meilleur film de Balaguerro réalisé en solo, puisqu'on sait qu'il avait réalisé avec Paco Plaza Rec, qui est pour moi un grand film d'horreur.
Oui.
Donc dès les premières images, on est happé par le nihilisme du propos. César est un gardien d'immeuble qui ne supporte pas le bonheur des autres. Pire, il ne sait pas ce que l'on ressent lorsqu'on est heureux. Il se lève chaque jour sans la moindre motivation avec des idées suicidaires. Sa seule satisfaction, toujours stérile néanmoins, est de pourrir la vie des autres, leur faire perdre leur sourire. Rongé par la jalousie et la convoitise, il va s'acharner sur une jeune locataire, joviale et pétillante, de manière sournoise et perverse, sans que celle-ci s'en rende compte. Alors il s'introduit chez elle chaque nuit, lui injecte du poison dans ses cosmétiques, subtilise des objets, bouge son évier, il remplit son appartement même de cafards. Pire, il l'endort chaque nuit avec ce que l'on peut en fait appeler la drogue du violeur. Donc imaginez un peu la suite. Mais en apparence, César est un brave gars, serviable et gentil, qui donne l'impression d'être entièrement dévoué aux autres. Il rend régulièrement visite à sa mère, qui est dans le coma, ou plus ou moins, et lui raconte ses méfaits avec une certaine mélancolie. D'ailleurs, la référence à la psychose saute aux yeux.
C'est justement mon problème. J'arrive pas à être heureux. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est que se lever chaque matin sans la moindre motivation. La seule chose qui me soulage, c'est le malheur des autres. Je vous assure que je fais de mon mieux. Vraiment. C'est enfin comment être heureux.
La première qualité de malveillance réside d'ailleurs dans le portrait clinique et inquiétant de ce personnage gardien d'immeuble, impassible et pervers. Mais contre toute attente, cet individu maléfique provoque finalement une certaine empathie, car s'il s'agit de quelqu'un de profondément dépressif et triste, qui ne peut trouver comme seul réconfort le malheur d'autrui. Cette figure pathétique et parfois terrifiante entraîne le film dans des contrées inédites, faisant basculer le film de terreur classique vers une dimension psychologique particulièrement déstabilisante. Avec son côté placide et monolithique, Luis Tosar, je ne sais pas si je prononce bien, déjà repéré dans Les Lundis au Soleil et Mes chers voisins, est exceptionnel dans le rôle de César. Sobre et inquiétant, il parvient même à mettre le spectateur dans sa poche et crée du coup une situation plutôt inconfortable. Face à la petite peste de l'immeuble, une petite fille assez étrange et perverse, qui essaie de le faire chanter, on en vient presque à compatir de son sort. Un comble quand on pense à ses actions néfastes et son goût morbide pour la manipulation. L'autre point fort du film réside dans sa mise en scène. On mesure les progrès parcourus par le cinéaste ibérique depuis son premier long métrage, La secte sans nom, qui péchait à mon avis par excès de stylisation et un montage un peu cut, parfois agaçant. Rien de poseur et tape à l'œil dans Malveillance. La mise en scène, fluide et sobre, est entièrement au service d'un récit particulièrement retors. Les lents travelling avant, arrière et latéraux qui parcourent le film instaurent un climat particulièrement anxiogène qui font songer à Shining de Kubrick et aux locataires de Polanski. Le décor de l'immeuble vieillot, loin du modernisme de rigueur, ajoute d'ailleurs une touche inquiétante à l'ensemble, comme s'il s'agissait d'une maison hantée. En dépit de quelques baisses de rythme, Malveillance est une œuvre glaciale et terrifiante, s'appuyant sur un scénario parfaitement huilé. L'abondance de références, qui va donc de Kubrick à Buñuel en passant par Hitchcock et Polanski, peut agacer le cinéphile, mais Balaguerro transcende ce péché mignon en inscrivant son film dans un contexte social pertinent. Il nous parle aussi de la déchéance des rapports humains, de la solitude des individus de plus en plus prégnante. En s'écartant donc des modèles américains, contrairement à ses précédents films, notamment Fragile et Darkness qui étaient tournés en anglais, Balaguerro s'inscrit dans une tradition du cinéma espagnol à la fois subversif et ironique. L'épilogue d'une violence morale inouïe est un grand moment de cinéma déviant. Alors je ne peux pas vous en dire davantage, mais on ne verrait jamais un tel degré de cynisme dans un film d'épouvante standard, notamment américain, parce que c'est vraiment très amoral. Donc à mon avis, c'est un des meilleurs films qui est sorti cette année. Enfin, il est sorti le 28 décembre, mais je dirais de cette année. Et surtout, ben, je pense que Balaguerro compte maintenant parmi un des cinéastes les plus intéressants du cinéma espagnol. Hein.
Et donc pour le coup, ça n'a pas véritablement fonctionné au niveau des entrées quand il est sorti. Il est peut-être sorti une mauvaise période, 28 décembre, quoique non, si, ça peut aller ça.
Bah, je sais pas, vu le sujet, je sais pas si au moment des fêtes de Noël, un film où tous les personnages sont relativement antipathiques peut vraiment fonctionner.
Ah, la bonne année.
C'est quand même un film assez froid, glacial, puis ça passe pas dans les circuits indépendants, alors c'est diffusé au multiplex, je sais pas si c'est le type de film qui attire enfin, le spectateur lambda.
En tout cas, donc, il est disponible en DVD, donc DVD chacun peut se rattraper.
Voilà. Donc un autre petit film qui s'appelle Don't Be Afraid of the Dark, je voudrais dire un mot de la nouvelle production de Guillermo del Toro. Au départ, il s'agit d'un remake d'un téléfilm de John Newland réalisé en 73. Le film fut diffusé en France sous le titre Les créatures de l'ombre. J'avoue que je l'ai jamais vu. Hein. Et pire, j'en avais jamais entendu parler. Alors je ne sais pas si toi, Stéphane...
Oui, je l'ai entendu parler. Voilà. Oui.
Tu l'avais vu ?
Non.
Donc Guillermo del Toro rêvait de ce projet depuis 10 ans. C'est chose faite, sauf qu'il confie la réalisation à un débutant, Troy Nixey. Le scénario ne brille pas par son originalité, mais n'en demeure pas moins efficace. Donc Salim, petite fille, vient vivre avec son père divorcé et sa nouvelle compagne dans une grande maison à restaurer. Mais une menace est tapie dans cette demeure. Des petites créatures démoniaques et carnassières abritent les lieux depuis des lustres. Une version gothique, on va dire, d'un Critters. J'ai trouvé que ça comme référence. Don't Be Afraid of the Dark est un bon film de terreur à l'ancienne, bénéficiant d'une magnifique photographie, baignant dans des couleurs chaudes, chères à l'esprit des films de Del Toro, et de décors à l'ancienne, instaurant un climat désuet rafraîchissant. Les effets spéciaux sont d'ailleurs remarquables. Katie Holmes est une fois n'est pas coutume crédible en future belle-mère, et le récit tout en crescendo offre quelques moments de terreur bien sentis. Bon, il n'y a rien d'absolument transcendant dans cette série B efficace, mais un amour du travail bien fait, un sens de l'art qui fait du bien. Si le script linéaire et prévisible n'est pas n'est pas vraiment le point fort du film. La mise en scène aérienne, tout est filmé à la Steadicam d'ailleurs, possède un climat flottant, proche du conte de fées pour adultes, alliant le fond et la forme avec panache. Donc, à mon avis, une petite réussite qui est disponible avec le Mad Movies de juin. Et on peut aussi l'acheter indépendamment un peu partout, parce que je crois que c'est sorti chez TF1 Vidéo. Donc,
yeah, voilà. Bonne référence. On va justement parler de DVD dans quelques instants sur Cinérama, puis après, dans l'émission, donc on va retrouver les chroniques de Marine plus un petit blind test, mais tout de suite donc c'est le chat qui fume.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie
sur Divergence FM
avec notre invité donc Stéphane Bouillet qui est son directeur. Alors Manu, bah, je te laisse entre ses mains parce que c'est toi qui maîtrises quand même bien le sujet hein,
Oui, d'ailleurs, j'ai commencé une des premières chroniques que j'ai fait sur le site Ciné Étrange. C'était un film qui venait du chat qui fume.
Ah bon, c'était lequel?
The Deadly Spawn.
Ah.
Deadly Spawn, voilà. Là, c'était pas ma première, mais ça faisait parmi mes premières chroniques.
Ah oui, ouais, c'était notre premier DVD.
Oui, je sais, et le deuxième, c'était Punk Rock Holocaust. Ouais. Donc, bah, globalement, tu peux un peu nous présenter donc, le chat qui fume. Hein,
Alors, le chat qui fume, c'est une société à la base qui est composée de deux personnes. On fait ça bénévolement, on fait ça par passion. Et le but, c'est de sortir des films vraiment qu'on aime, de mettre le plus de bonus, de s'amuser, de montrer un peu des films un peu étranges, un peu bizarres, qui sortent du lot. On a sorti des films érotiques, de la blaxploitation, des films d'horreur, des classiques, des comédies, des films français. Mais vraiment, on sort ce qu'on aime. Voilà. Donc, ça existe depuis environ 6 ans, je crois. Et donc, on continue à s'amuser depuis 6 ans.
Ben d'ailleurs, le catalogue est très varié. Est-ce un choix d'ailleurs délibéré de sortir aussi bien des films d'épouvante, érotiques, expérimentaux
Le but était vraiment à chaque fois de changer de genre un petit peu pour que les gens ne sachent pas trop sur quel pied danser. Donc, ne pas se cataloguer comme certains éditeurs sur une cible précise d'horreur ou je ne sais pas trop quoi. Nous, c'était vraiment à chaque fois de changer. C'était vraiment le but. Donc, puis de mélanger un peu les genres. Donc, on pouvait sortir un film classique des années 70, 60, comme La Nuit de tous les mystères avec Vincent Price, et puis en même temps sortir un film érotique.
Justement, donc, là-dessus, il y a des choix un peu surprenants. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi de sortir tous les films, une bonne partie, je dirais, parce que mon avis, il en a fait énormément, de Jean-Marie Pallardy, qui était un spécialiste du cinéma érotique, voilà, avec des titres comme L'arrière-train sifflera trois fois. Ou...
Vas-y, continue, on va gagner des auditeurs.
L'amour chez les poids lourds. Et non, parce que c'est un personnage très sympathique, c'est un vrai anarchiste du cinéma, c'est une personne qui faisait du film vraiment pour vivre. Pas pour vivre en tant que argent, mais il le faisait parce qu'il avait besoin de ça, besoin de tourner, besoin de faire des films, besoin d'être parmi ses actrices. Il faisait ça, il le disait lui-même, hein, pour la bouffe, pour entre parenthèses la baise aussi, et il s'amusait. Et ces films sont vraiment à chaque fois très comiques, très paillards, très, très amusants. Les titres sont quand même très connus parce que même dans Les Simpsons, l'arrière-train s'effleura trois fois est cité dans un épisode quand même. Donc, il s'est amusé pendant 10 ou 12 ans à peu près. Il a fait aussi des films un peu plus classiques, un peu plus. Parce qu'il a quand même parlé aussi des Mères Porteuses en 1974. Le film fut interdit à l'époque. Il a pas, donc, c'est même encore un sujet brûlant, même de nos jours. Il a parlé aussi d'affaires policières et tout ça qui ont défrayé la chronique à l'époque, dans le journal érotique d'un notaire. Et il a eu pas mal de problèmes à cause de ça. Mais c'est un vrai anarchiste. Donc c'est une grande gueule du cinéma français. Beaucoup de gens le détestent. Parce que c'est un peu aussi un voleur. Enfin, il aimait bien à l'époque, c'était des grosses magouilles, mais c'est quelqu'un de vraiment attachant. Et quand on le rencontre, il peut être très casse-pied parfois, et aussi très attachant, très amical. Et voilà, c'est une manière pour nous un peu de rendre hommage à un cinéma qui a fait un carton à l'époque au cinéma.
Voilà, c'était dans les années 70, c'est pour ça qu'il a choisi de faire du film érotique, ou alors c'était
parce qu'il aurait pu
faire des films politiques.
Oui, non, mais parfois il mettait parfois un peu de politique dedans, mais il préférait largement faire de l'érotisme, ça marchait mieux, et puis en plus il était avec des nanas toutes nues, donc dont Brigitte Lai et tout ça. Mais c'est vraiment une personne qui, voilà, c'est vraiment un vrai amoureux du cinéma, quoi, qui est donc, on voulait vraiment lui rendre hommage maintenant que tout le monde lui tape dessus, ou tout le monde le critique un peu en disant qu'il a fait des nanars, que c'est tout ça. Ben pour nous, c'était vraiment lui rendre hommage, quoi, voilà.
Tu as aussi édité moi je trouve que c'est des films vraiment remarquables, comme Forbidden Zone, ou dans un genre très différent, un film très très glauque qui s'appelait Hard. Ah oui. Est-ce facile d'éditer de tels films, hein, ou est-ce qu'il y a eu d'autres éditeurs qui se seraient arrachés ces films-là?
Non, parce que Hard, qui est un film à la base gay, alors que nous on est une boîte hétéro plutôt, et donc c'est un film gay. Bon. Et Hard, bizarrement, a été refusé par toutes les boîtes gays de Paris. Donc ils l'ont refusé parce que c'était trop violent. Puis ça avait un...
C'était considéré comme
pas du tout. Non, le réal est gay, il l'assume pleinement. Ça parle. Non, c'est très étonnant. Mais c'était trop. Ça rendait pas l'image. Des gays très gentils, très propres sur eux, donc c'était très noir, c'est un vrai thriller psychologique, et donc tout le monde l'a refusé sauf nous, et on en a, vendu un paquet, quoi, donc ça a très bien marché. Donc,
Et du coup, c'est question de droit, là, parce que tu dis, mais est-ce qu'un autre éditeur s'est intéressé à ce film? Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? On a une idée en tête, on veut ce film. Est-ce que c'est facile d'avoir les droits, effectivement, et d'être l'éditeur du film?
Alors, ça dépend le film. Voilà, ça dépend le film. Si le film n'est pas très connu comme Hard, c'est assez facile, parce qu'il y a très peu d'éditeurs qui sont en concurrence. Bon, un film comme Malveillance, c'est pas possible. Voilà. Mais après ça, non, là, comme Forbidden Zone, que tu citais, justement, Manu. Là, on a simplement contacté le producteur et on a dealé directement les droits. Voilà, personne s'est intéressé. Il était sorti en Angleterre simplement et on a sorti une très bonne édition DVD. Et le film n'a pas très bien marché, mais on est content. En plus, l'actrice est morte hier, j'ai appris ça. Donc,
vous allez remettre une couche au niveau, non?
Non, parce que le film a 5 ans et puis les gens. Non, on n'est pas comme ça non plus. Voilà. Mais on est content d'avoir édité ce film-là, qui est plein de bonus, qui est une très très bonne copie. Et voilà, c'est le genre de film qui ne marche pas très bien en DVD en France, parce que c'est un public assez restreint. Mais on est content parfois de faire des films comme ça, quoi.
Et pour le coup, quand vous demandez les droits, est-ce que celui qui vous fournit ces droits a un regard sur le contenu des bonus, le contenu du DVD?
Non, aucun, non.
Aucun. Vous faites ce que vous voulez.
Oui, on achète le film, on n'a pas le droit de toucher au film, bien sûr, on n'a pas le droit de remonter le film, de changer les pistes son et tout ça. Après ça, les bonus, ils s'en foutent un peu, je pense.
D'accord.
Ce qu'ils veulent, eux, c'est, enfin, surtout les Américains, c'est de vendre. Donc, ils vendent le packaging avec les bonus, tout ça, ensemble. Il y a qu'en France, on est parfois très con pour vendre des films, mais aux États-Unis, même en Angleterre, c'est carré, il n'y a pas de problème.
Et le film le plus cher que vous ayez acheté, c'était quoi?
Forbidden Zone.
Un des premiers, alors, si j'ai bien compris.
C'était le quatrième ou le cinquième, oui.
Vous avez sorti aussi des films plutôt libres de droit.
Oui,
je pense à Tous les Mystères, oui. Non, ou Carnaval of Soul aussi.
Oui, ouais. Et Le Sadique. Et oui, ça, c'est parce que ça, c'est des films très, qui baignent dans un côté fantastique, un peu thriller, et puis très drive-in. Et on aime bien cette culture un peu drive-in, et c'est amusant de faire ça, donc on s'est bien amusé dessus, oui.
D'ailleurs, vous sortez beaucoup moins de films, tu sors beaucoup moins de films aujourd'hui, lié en fait à tes activités, je dirais, parallèles de producteur, ou à une difficulté aussi du marché DVD qui s'écroule un petit peu quand même, et qui devient difficile pour les petits éditeurs.
Nous allons parler du piratage, attention. Mais c'est le piratage. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, même si tout le monde pirate, hein, moi aussi je pirate, hein, tout le monde dans la vie pirate, mais c'est vrai que qu'on est un petit éditeur, qu'on vend 1000 DVD, au bout d'un moment, qu'on en vend plus que 500 et qu'on ne peut même pas payer le pressage du DVD, parce que nous, on ne se paye pas à la base. Donc, quand d'un coup, on ne peut même pas payer le pressage, pourquoi sortir un film, quoi? Donc, pourquoi essayer de trouver des films qui vont d'un coup même pas payer un pressage, quoi? Donc, c'est compliqué. Il y a même parfois aussi la SACEM, qui est très compliquée là-dessus. Les droits, à la SACEM, c'est donc pour les droits musicaux des films, qui sont vraiment des vrais voleurs. Et... parce qu'au bout d'un moment, je peux comprendre qu'ils tapent sur les films qui gagnent de l'argent, mais quand on ne gagne pas d'argent, ça ne sert à rien de taper dessus en plus. Donc, il y a même des films qu'on nous donne gratos et qu'on refuse. Parce qu'on sait qu'en droit SACEM, on va payer, 1000 euros, 2000 euros, alors qu'on ne peut pas du tout. Il y a des films gratuitement qu'on nous donne. Enfin, on pourrait sortir des films de jeunes artistes, de jeunes auteurs français, de jeunes cinéastes français, mais on refuse à cause de ça.
Pardon. C'est un gros dossier, la SACEM. Hein,
ah, c'est un très gros dossier. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. On n'a pas de temps aujourd'hui, mais bon.
On en fera un spécial.
Et du coup, tu t'es retrouvé producteur. D'ailleurs, comment tu t'es retrouvé producteur des films, notamment de François Gaillard, Black Aria et Las Carès?
Alors, Black Aria, c'est pas nous, hein, mais c'est Las Carès, oui. Mais non, on s'amuse. Enfin, le but, c'est toujours un peu de s'amuser. Donc, je pense qu'après le DVD, on a fait 35 titres, je ne sais plus trop. Et on s'est dit, pourquoi pas tester autre chose? Donc on est parti, on a rencontré François Gaillard pour la sortie du DVD de Black Aria. Et donc on lui a dit, as-tu un projet? Il a dit oui, j'ai Las Carès. On lui a fourni un peu du matos technique, de l'argent, un suivi et tout. Et donc il a fait son petit film, qui était un bon film et qu'on a vendu à l'étranger. parce qu'on l'a vendu en Allemagne, il est sorti en Allemagne, il sort en Scandinavie, enfin aux États-Unis, donc donc on continue après ça là-dessus. Le but c'est de s'amuser toujours, voilà, de faire le cinéma qu'on aime, de faire ce qu'on aime. Donc si on peut trouver un autre moyen de continuer un peu à faire nos bêtises, et ben on continuera. Donc la production, c'est une bonne continuité, je pense.
Et quels sont tes projets, en fait, tes projets éventuellement, est-ce qu'il va y avoir des sorties DVD prévues au cours de l'année?
Alors oui, je pense. Là, on a fait un petit point. Enfin, là, on a fait une petite pause depuis le mois d'octobre. On sort aussi des films de Palardi, d'autres films de Palardi, donc des pornos.
Des films érotiques.
Non, pornos cette fois-ci, des pornos qui sont assez rares, en plus très peu sortis en cassette vidéo et tout ça. Mais
on s'inquiète moins de la SACEM là-dessus, non?
Oui, totalement. Non, mais ça permet surtout, les films comme ça permettent aussi de financer d'autres films un peu plus durs à rentabiliser, par exemple Black Aria de François Gaillard donc, et Christophe Robin, a très peu marché en DVD. Enfin, ça a marché, mais pas non plus un carton. Donc, c'est ce style de film-là qu'on aime, qu'on trouve marrant, marche très bien en DVD, les films érotiques ou même porno. On ne fait pas de porno à la base, mais là, c'est un petit coup pour s'amuser. Et ça ramasse un peu d'argent pour après ça faire d'autres projets, pour aider aussi d'autres jeunes. Par exemple, on a sorti The Hun de Thomas Chepensky. On produit le prochain film de François, enfin on va aider financièrement le prochain film de François aussi, Gaillard. Donc cet argent-là permet aussi après ça d'aider d'autres personnes après coup. Voilà.
Eh bien, oui, bah sinon, vos meilleures ventes, c'est quoi?
C'est Hard, environ 5000 ventes. Extraction, un film érotique, 5000 ventes. Et voilà, environ. Enfin, Carnival of Souls, des choses comme ça, quoi, autour de 3000 ventes. Oui.
Et vous êtes le seul sur Carnival of Souls?
Non. Depuis, non. Mmh. Depuis, effectivement, Wildside a sorti
sa sortie. Puis il y avait une édition un peu pirate avant, il me semble.
En France? Non, je crois pas. Hein.
Je l'avais. C'était un truc qui était vendu sur Cdiscount, mais avec une copie assez lamentable.
Mmh. Non, on était les premiers là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, on est très contents. Ça a bien marché.
Eh bien, merci Stéphane Bouillet. Donc, vous restez avec nous parce qu'on va jouer bientôt au Blind Test. Le temps que Marine arrive dans les studios et bien monte tous les sons qu'on va écouter, puisqu'on va devoir deviner bien des extraits de films. Mais on va passer tout de suite à la fête du cinéma.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Alors c'est demain, la fête de la musique, mais malheureusement celle-ci ne dure qu'une nuit. Une nuit avec les chorales qui se mêlent au groupe de métal dans une bonne humeur qui laisse admiratif. Et n'oublions pas la beuverie monumentale qui surpasse tous les apéros Facebook. Mais le cinéma a aussi sa fête. Comme les beaux jours arrivent, que les examens pour certains laissent du temps libre aux autres, les salles de cinéma attirent le chaland avec des tarifs défiant toute concurrence. Une place achetée et toutes les autres séances à 2,50€. Quand on sait que la place dans un multiplex approche les 10€, on peut effectivement se laisser tenter et se lancer dans une apnée cinématographique.
Si tu veux, ça fait du cinéma en ce moment. On pourra aller voir des films ensemble.
Est-ce la naïveté propre aux enfants ou leur conditionnement à consommer toujours plus? Il ne suffit pas de sauter sur la promotion, encore faut-il choisir son film. La fête du cinéma, eh bien les distributeurs ne peuvent l'ignorer. Aussi, c'est un bon moyen de faire des entrées en quelques jours. Si bien que Projet X... Un film d'une grande portée politique, hein, donc Projet X qui était sorti déjà depuis 3 mois ou 4 mois. Donc Projet X, un film d'une grande portée politique selon Nadine Morano qui aurait déclaré lors d'un canular téléphonique « La destruction de cette maison où est organisée une fête avec des teenagers bombardés d'alcool et de drogue est une métaphore à peine voilée de ce que vit la France politiquement avec la gauche au pouvoir ». Alors non. Donc...
Elle a dit ça?
Non.
Ah.
Alors à part...
Elle aurait pu.
Elle aurait pu, c'est pour ça que je... Alors à part Projet X, eh bien, on trouve de vraies sorties. La plus remarquée est celle de la dernière farce avec Sacha Baron Cohen et son de Dictator, cet opus toujours réalisé par Larry Charles, se moque joyeusement des dictateurs. Alors bien plus drôle que Dieudonné, car là il s'agit vraiment de second degré quand on n'atteint pas la surchauffe et la brûlure au troisième degré. Alors le seul problème de Dictator est son omniprésence médiatique, où le personnage du film, l'amiral général Aladdin, a participé à nombre de teasers, de plateaux télé jusqu'à l'excès. Et donc le seul danger de ces films, eh bien, c'est qu'on pense qu'on a peut-être déjà tout vu. Mais le plus réjouissant cette semaine devrait être le dernier film des frères Podalides, Adieu Berthe ou l'enterrement de Mémé. Bruno est toujours à la réalisation, Denis à l'interprétation, mais cette fois-ci, l'acteur a participé au scénario. C'est encore une comédie, mais infiniment plus subtile qu'un numéro de l'amiral général Aladdin.
C'est quoi ces tubes?
Des urnes.
Des urnes? Elles sont toutes petites.
Ouais, c'est un concept nouveau, on divise pour divers membres de la famille.
Et là, ça, c'est le papa.
C'est un thermos.
Et alors là, c'est la maman thermos.
Non, touchez pas celle-là, elle est pleine. Un prof de maths. et de mon Rolex. Ah, part au courrier demain matin. Dis donc, Haroun, tu me l'as pas emballé, celle-là?
Ah.
Bon, alors, je récapitule. Demain, vous allez dans la chambre de votre grand-mère pour savoir si elle a laissé des instructions, et vous souhaitez que moi, allant chercher le corps, je vous dépose à la maison de retraite, c'est ça?
C'est ça.
Bon, enfin, il faut que j'en parle avec Haroun, parce que...
Haroun?
Oui.
Haroun, comme Taziev?
C'est son fils. Enfin, c'est un peu compliqué, mais on dit pas Taziev, on dit Taziouf.
Taziouf? Mais tout le monde dit Taziev.
Taziouf.
Qui c'est qui aujourd'hui s'occupe des volcans? C'est vrai, on a l'impression que ils sont éteints ou quoi? Ils allaient péter à tout moment, on voyait des ébullitions en permanence, hein, comme celui-là en Guadeloupe.
La sulfateuse, la souffreteuse,
la soufrière.
La soufrière, oui.
La soufrière, bah, ça bardait, ça. Moi, j'aurais jamais mis un pied en Guadeloupe. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous prendre une sacrée douche, marquée. Hein. Ça résout tous les problèmes. Hein. Regardez, le Vésuve. Ça leur est tombé dessus d'un coup et j'ai pas le temps de se... Oh. Ils sont en train de se faire à manger et...
Dites, vous avez jamais pensé aller voir quelqu'un?
Une fois qu'on a bien ri avec les Podalides, on peut aller voir un film de Castagne qui promet The Red de Gareth Evans, dont je ne sais à peu près rien. Vous savez des choses sur
lui? C'est un Écossais qui tourne en Indonésie, c'est la seule chose que je sais.
Voilà, moi je pensais qu'il était américain et en tout cas j'avais remarqué que le film était estampillé indonésien. Alors c'est l'histoire d'une unité d'élite qui tente de piéger un baron de la drogue asiatique, mais le malfrat étant averti de l'assaut, met au point un stratagème qui piège la police redoutable.
Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons des visiteurs imprévus qui rôdent dans nos couloirs ce matin. Alors au travail mes amis.
Et faites-leur passer un moment agréable.
Outre le fait qu'il a été nommé dans quelques festivals, dont Sundance, et qu'il a remporté un prix public au Festival de Toronto, son budget rikiki d'un peu plus de 1 million de dollars laisse penser qu'on a affaire à un film astucieux. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il est interdit aux moins de 16 ans et aux filles non accompagnées. On laisse de côté Beach Slap, l'histoire de trois femmes dévêtues qui traversent le désert pour s'emparer de diamants.
Ça sort au cinéma?
Ça oui. Sort au cinéma, oui. Ouais, ah, c'est sorti ouais. Il y a...
C'est un film de 2009, en plus voilà, d'un oui. Réalisateur, Rick Jacobson, qui avait fait des trucs genre Kickboxer 5 ou je sais pas.
Ça sort au cinéma, c'est impressionnant ça.
Bien là, c'est les filles, elles sont voilà, dévêtues, ouais. Pour ce que j'ai vu. Mais si vous aimez donc les mélodrames, sort de Deep Blue Sea avec Rachel Weisz, la compagne d'Aronofsky, hein, qui choisit ses apparitions cinématographiques, capable de jouer pour son mari, pour Fernando Méryès, Amenabar, Rian Johnson ou Wong Kar-wai, mais aussi d'aller dans des projets parfois inintéressants, c'est arrivé. Oui, tu voulais? Non. Comme la fête du cinéma s'achève le mercredi suivant, prolongeons le plaisir et découvrons les sorties du 27 juin. Alors moi, j'ai bien aimé Brice Denis et Serial Lover, mais je ne sais pas si je pourrais m'accrocher à Un bonheur n'arrive jamais seul de James Hutt, donc, où Sophie Marceau et ses trois enfants eh bien, va séduire Gad Elmaleh, le célibataire. En revanche, je suis assez intrigué par La clinique de l'amour d'Artus de Pengern, lui qui avait commis il y a quelque temps déjà un film fauché, et assez inégal, mais prometteur, Grégoire Moulin contre l'humanité. Alors on nous prévient que ce film, c'est urgence traitée à la manière d'un pilote dans l'avion. Donc ça voudrait dire un gag toutes les 10 secondes, ce qui peut devenir quand même assez indigeste.
Bruno Salomon, Elena Noguera, Arthur de Bengern, Natasha Ledinger, Anne de Petrini, with Masha Hormon and Dominique Lavanant. De l'amour, une thérapie familiale qui va vous faire du bien.
Ta gueule, toi!
Pardon?
Ta gueule!
Personne ne me dit ta gueule. Comprendo?
Oui, madame.
Mademoiselle!
Mais le film, attendu par des milliers de jeunes filles, est assurément Bel Ami, adaptation du roman de Guy de Maupassant, où joue Robert Pattinson. Et c'est à ce moment-là que Marine arrive, hein, dès qu'il est question de Robert Pattinson, qui en a fini avec la diarrhée verbale en limousine à l'œuvre dans Cosmopolis, aux côtés du jeune qui a la cote, on retrouve celles qui l'ont eue, Uma Thurman et Christine Scott Thomas. Alors cette semaine-là, on retrouvera le premier des palmés à être visible par le plus grand nombre, la gentillette comédienne de Ken Loach, La part des anges, et son arnaque au whisky. Ken Loach qui a remporté le prix du jury, hein, qui est quand même le lot de consolation du Festival de Cannes, une sorte de deuxième palme. De quoi donner un coup de pouce à un petit jeune qui débute. Nadine Morano a tweeté à propos de ce Ken Loach. Ce film est à l'image de la France. Nous serons tellement surtaxés par le pouvoir socialiste que l'alcool sera inabordable pour le peuple de France. Pour ceux qui veulent se convaincre que cinéma ne rime pas forcément avec 7e art, le dernier film où apparaît Jason Statham sort cette semaine. Des bandits, des policiers véreux, des chinois et des russes très méchants, alors deux ethnies pour le prix d'un. Mais on se demande, a dit Madame Morano, pourquoi il n'est nullement question des méchants nicaraguayens ou mexicains, sans doute les premières conséquences d'une autocensure des scénaristes au service d'une politique de gauche qui vise à gommer les problèmes communautaires pourtant évidents dans l'Hexagone.
Dans les bas-fonds de New York, il y a des malfrats, des tueurs et des policiers corrompus. Mais aujourd'hui, la personne la plus recherchée de la ville est une fillette de 12 ans.
On peut parier que ce sera moins subtil et pousse-larmes que Léon. Alors terminons avec les films qui seront hors délai de la fête du cinéma. Tout d'abord, le grand perdant de Cannes, Léo Scarrax, qui ne revient pas avec Merde 2, hein, comme il l'avait promis, même si son personnage apparu dans le triptyque collectif Tokyo fait un comeback dans son Holy Motors, qui, selon les personnes qui l'ont vu à Cannes, semble être du bon Carax, un film de réalisateur maudit avec quelques pichenettes adressées au monde du cinéma, mais sans doute aussi beaucoup de talent. Il sortira la même semaine que le reboot de Spider-Man. Alors déjà qu'avec Sam Raimi, Spider-Man me laissait perplexe. Je sais que je partage sans doute pas cet avis.
Non, moi j'aime bien les deux premiers.
Voilà,
je reconnais.
Et donc, Amazing Spider-Man, où Raimi manque à l'appel, risque de me laisser à la caisse pour préférer un autre reboot bien entamé par Christopher Nolan, qui sortira son Batman de Dark Knight Rises. Et les pressants de Nolan donc, m'avaient réconcilié avec la franchise, qui était devenue une sorte de gros bazar un peu trop comique, c'est fourre-tout. Mais ce Batman ne sortira que le 25 juillet. Entre-temps, il vous restera une avant-première qui a coûté bien moins que les 250 millions de dollars d'un Batman, celle de White Epilepsy de Philippe Grandrieux, le mardi 10 juillet à 18h15 au Diagonale. Et Nadine Morano aurait tweeté à propos du précédent film de Philippe Grandrieux, réalisateur à la limite de l'expérimental, donc du film d'un lac. Je n'ai pas envie que la France devienne un lac. Déclaration surprenante, puisqu'un lac, c'est trois personnages, dont deux frères bûcherons, six personnages au total, et 10 lignes de dialogue. La France a plus de chances de devenir camping 1 et 2. Et on écoute Philippe Grandrieux.
Une des scènes peut-être les plus expérimentales du cinéma, c'est la scène de la douche dans Psychose. Et il n'est pas en train de raconter une fille qui prend une douche, ni quelqu'un qui vient tuer la fille qui prend la douche. Tout le monde s'en fout. On peut faire ça en trois plans merdiques dans n'importe quel téléfilm.
Voilà, c'était Philippe Grandrieux. Juste un petit rappel, puisqu'on avait eu une longue interview lors d'un cinérama, c'était, oh là, il y a 3 ans. Voilà, c'est la fête du cinéma, ça commence donc ce week-end. Dans quelques instants, le retour de Marine.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Chers auditeurs, je ne sais pas ce que Vincent a raconté à mon sujet, mais sachez quand même que je viens de me taper une mission en mode mémoire dans la peau. J'étais aux prises avec des mafieux russes qui étaient alliés avec le fils de Ben Laden. Enfin, ils m'ont coursé en hors-bord sur la Méditerranée. Finalement, je me suis retrouvée dans un avion de chasse. J'ai dû m'éjecter en parachute. Je suis arrivée sur le toit de la radio. Et bref, je suis là. Et pour cette dernière émission de Cinérama, non seulement j'ai décidé de dire non au film d'auteur français, je ne vous en parlerai pas, je vous parlerai d'un film canadien et d'un film américain, mais en plus, je vais en dire du bien. Et on commence tout de suite avec Starbuck.
Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité.
Crois-moi, David, tu veux pas avoir d'enfants. C'est des espèces de trous noirs qui tuent toute ton énergie, ton temps, ton argent.
Je bande plus. C'est pas compliqué, je bande plus.
Tu peux dire des affaires comme ça devant tes enfants.
Je peux dire n'importe quoi, ils m'écoutent pas. Ils n'entendent rien. Mes enfants ne captent pas les fréquences de ma voix.
Starbucks n'est pas qu'une enseigne où vous payez votre café 5 euros, c'est également le nom d'un taureau légendaire au Canada qui aurait, grâce à sa génétique parfaite, donné naissance à des milliers de veaux par insémination artificielle. Un surnom que David Wozniak s'approprie lorsque, pour parer à de nombreuses dettes qu'il a accumulées, il devient donneur de sperme. 20 ans plus tard, et toujours aussi loser, David apprend que ses éjaculations à répétition ont enfanté pas moins de 500 enfants et que 142 d'entre eux demandent à rencontrer leur père. Hormis le fait qu'il préférait garder ses activités manuelles secrètes, David n'a pas le temps ni l'envie de gérer cette situation. Sa femme, non seulement enceinte mais en plus flic, commence à avoir des suspicions quant à ses plantations de cannabis et la mafia locale lui réclame une énorme somme d'argent. Bien décidé à devenir enfin adulte, David va s'évertuer à rencontrer chacun de ses enfants, sans dévoiler son identité, afin de se confronter à la paternité qui l'attend. Lorsqu'une comédie québécoise traverse les frontières pour arriver chez nous, c'est souvent bon signe. On ne dérogera pas à la règle ici, avec ce très bon cru qui équilibre à la perfection les trois angles d'une comédie réussie. Des personnages hauts en couleur, un sujet délicat et une mise en scène ultra inventive. Il est en effet rare de trouver une réalisation aussi travaillée dans ce registre, mais le réalisateur Ken Scott réussit des scènes à la fois drôles et inspirées qui servent parfaitement le comique de situation. Cynique, grinçant et parfois délirant, Starbucks réussit ce savant mélange dont les comédies américaines cherchent encore la recette. Sans jamais être vulgaire, mais d'une irrévérence toujours jouissive, le film parle des hommes et de leurs conditions de père dans la société actuelle avec une insolence trash qui finalement révèle bien des subtilités. On nous sert des dialogues bien relevés pour accompagner un scénario dont la seule faille reste la fin, un peu trop sucré à mon goût, et on n'oublie à aucun moment de bien appuyer là où ça fait rire. Alors moi qui suis une grande frigide du rire, je peux vous garantir que je me suis esclaffée, j'ai gloussé, ricané, pouffé, rigolé, bref, je me suis bien marrée et j'étais vraiment pas la seule, tout le monde a adoré le film. Donc je vous le conseille vraiment, ça sort mercredi prochain et c'est visible au Diagonal.
Eh bien merci beaucoup Marine, ça valait le coup de revenir et d'échapper à la mafia russe. Sinon donc un blind test.
Mais oui bien sûr, car également la semaine dernière sortait 21 Jump Street, l'adaptation au cinéma que nous n'avons pas été voir, que nous n'irons jamais voir, parce que m'as dit toi-même que... Ça, ah, Stéphane Bouillet veut aller le voir, très bien.
J'adore les comédies américaines, donc j'adore ça.
Bon, il en faut toujours un qui se sacrifie.
Plus c'est con, mieux c'est quoi.
Et en effet, je pense que c'est très con, c'est pour ça que nous n'irons pas le voir, mais par contre, c'est l'occasion de faire un petit blind test autour des adaptations de séries télé au cinéma. Et on commence dans ce premier extrait, il est question de baseball.
Travaille de là-bas toute la sainte journée, Babe Ruth, T-Cobb et tutti quanti. Si son équipe ne couvre pas le terrain, qu'est-ce qu'il est ?
Rien du tout.
Vous me suivez ?
Oui.
Un double zéro. Il y a du soleil, les tribunes sont pleines à craquer. Qu'est-ce qu'il se dit au fond de lui ? Je vais en mettre un bon coup comme un grand garçon. Mais je n'arriverai à rien, sauf si l'équipe gagne.
Et l'équipe ?
Oui.
L'équipe.
Le travail d'équipe.
Il n'y a que ça qui compte.
C'est une équipe soudée.
Sans les autres, ça ne fait rien.
Au nom de Dieu.
Ah, Stéphane a trouvé peut-être ?
Les Incorruptibles ?
Oui, voilà, c'est ça, adapté de la série des années 50, me semble-t-il. Alors là, on change totalement de registre.
C'est la musique.
Ah, oh, le soleil, c'est super. Chérie, la cire, tu connais pas ?
Quoi ?
Oh, mais j'ignorais que j'allais me mettre en maillot, c'est tout.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a ?
Je ne me suis pas épilée.
Depuis quand ? 1998 ?
J'avais d'autres choses à penser, figure-toi.
Eh ben moi-même, à l'article de la mort, je ne serais pas dans cet état.
Arrête, Samantha, quand on est mariés, on a des priorités qui deviennent différentes.
Chérie, le mariage n'a rien à voir. Charlotte est mariée, elle ne concurrence pas la forêt vierge. Comment tu arrives à croiser les jambes ? Je vais te prendre un rendez-vous au spa. Il va falloir qu'il sorte la tondeuse.
Et alors ? C'est ma faute ? J'ai fait fuir le sexe de mon mariage. Je mérite ce que j'ai récolté. Merci pour ta gentillesse.
Chérie, je m'excuse. Ce n'est pas du tout ce que je...
Et blablabla, blablabla.
C'est trop un film de fille, moi j'adore. Je crois que Manu a trouvé.
Sex and the City.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, dans le registre film de filles adapté de séries télé, on avait évidemment Drôle de Dame, 1, 2, voire 3 d'ailleurs, je crois. Ils ont poussé le vice jusque-là. Et il y avait également Absolument Fabuleux, avec Nathalie Baye et Josiane Balasco, dans cette adaptation de la série télé. Et même Ma sorcière bien-aimée, avec Nicole Kidman. Oui, alors, troisième extrait, c'est une scène d'introduction. Écoutez bien, c'est très facile.
Pourriez-vous avoir l'obligeance de vous coucher à terre, si ce n'est pas trop vous demander? J'espère que c'était un malandrin. Je me nomme Alice. Mère Grand m'a prévenue de votre arrivée.
John Stee.
Et voici Madame Peel, je présume.
Madame Peel, Alice.
Enchantée.
Un foirage total pour cette adaptation de La vie de tous. Et donc, c'était
Chapeau melon et bottes de cuir.
Voilà, c'est
la
ça.
Petite anecdote, le film a été tronqué, enfin pas mal coupé à l'époque et tout ça. Il sort, je crois, bientôt en Blu-ray dans sa version intégrale, donc avec des scènes en plus.
Qui sont du même niveau que la première version.
C'était un plantage. Non, mais pas que le film avait pas mal été coupé, remonté à droite à gauche, donc ça a été un vrai bordel. Le film s'est planté, mais il y a une version qui va arriver, il semblerait plus complète et plus lisible.
Et mieux.
On va dire. Mieux, je sais pas, mais plus lisible en tout cas.
Très bien, bon, on continue avec cette fois un bon creux, une adaptation réussie, et il n'y en a pas beaucoup dans cette catégorie.
Teresa Banks a habité le camping de la grosse truite pendant un mois. Au vérifier.
Ouais.
Était serveuse au Habs Dinner, prenait son service la nuit. On pourrait y aller dîner si t'as faim.
Oui.
Elle n'a été réclamée par personne. On ne lui connaît aucun parent.
Le crâne est fracassé, probablement à la suite de coups répétés sur l'occiput. Porté à l'aide d'un objet contondant. Je me demande où est passée sa bague.
Dans la liste des effets personnels, je vois une montre, des sous-vêtements et un uniforme rose de serveuse. Pas de bague ?
Il me semble qu'il y a une drôle de contusion. À la main gauche, à l'annulaire. Une lacération.
Accidentelle ?
Vincent a trouvé d'aller de première seconde.
Oui, c'est Twin Peaks de David Lynch avec Kyle MacLachlan.
MacLachlan. D'accord. Et aussi avec Jack Bauer.
Il y a David Bowie aussi.
Mais je pensais surtout à Jack Bauer dans cette scène qui fait...
Kiefer Sutherland.
Kiefer Sutherland, voilà, merci. Merci Stéphane. Extrait suivant, un classique.
Vous insinuez que j'ai tué ma femme.
Je n'ai pas tué ma femme! Lâche ton arme! Tourne-toi!
La chasse est ouverte.
Manu a trouvé.
Le Fugitif.
Voilà, c'était un tout petit extrait de la bande-annonce, bien connu. En plus, on pouvait reconnaître le doublage de Harrison Ford. On ne peut plus connu. Allez, un extrait un peu plus récent, cette fois. Un petit indice, tout est virtuel. L'actrice, les effets spéciaux, rien n'est vrai.
Allô, Michaela ?
Je ne crois pas que tu m'aies posé un lapin pour notre première encart en ligne.
Ziem, je me suis payé un pétage de plomb. C'est des symboles depuis que j'ai...
Que t'as quoi ?
Que j'ai touché l'éclat du cube. Tu l'as gardé ?
Ouais, il est au garage, je l'ai mis au coffre, t'inquiète.
Michaela, interdiction de le toucher, ok ? Tu touches à rien.
J'ai pas l'intention de le toucher. Sam, tout va bien, il est sous clé, personne sait où il est. Sauf moi.
Oh, tes canons, mettez pas une lumière. Comme ça. Oh, oui, voilà. Oui, oui, ça va le faire, ça va le faire. Silence ! Le fils de sa mère !
Oh, c'est une scène avec un petit robot et une actrice refaite des pieds à la tête. C'était Transformers.
Transformers,
ah bon, ça a été un petit robot.
Bien sûr, mais oui, il y a un petit robot qui parle avec une voix comme ça. Transformers,
oui,
avec.
Oui, il y en a même deux.
Voilà. Ouais. Avec l'acteur qui porte le nom le plus vilain que j'ai jamais entendu, Chia le Béouf. Mais bon, ça va être hyper, hyper sexy aux États-Unis.
C'était des dessins animés à la base.
Voilà, mais c'était une série, oui, voilà, dessins animés. Ah, et après, Hasbro a eu la bonne idée d'en faire un film afin de vendre plein de jeux aux petits-enfants. Voilà, allez, dernier extrait maintenant.
Eh oui, il n'y a que des enfants exceptionnels ici, que des surdoués, que des petits génies. Notre Amanda a 2 ans d'avance, mon cher. Et votre petit garçon, en conditionnel.
Nous adorons Chippewa. Amanda avait tellement hâte, elle était excitée comme une puce. Elle a une toute nouvelle garde-robe. Et cette jolie jeune fille. Oh, mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour, l'homicide.
Ah. L'amour et l'homicide.
Non, on vient de dire le prénom de la petite fille en question.
Ça, c'est la famille Adams.
Voilà, c'était la famille Adams, c'était question de mercredi. Voilà, bon, alors, pour finir un petit peu, une petite conclusion sur ces séries adaptées sur grand écran. Donc il y a eu pas mal de ratés. Dans les extraits que je ne vous ai pas passés, il y avait Wild Wild West qui était quand même super nul. Le Saint, Dragon Ball Z qui a fait un buzz impressionnant et qui finalement n'a peut-être fait que 10 000 entrées au cinéma, qui a disparu hyper vite. Et pour les plus réussis, bah, il y avait Miami Vice avec Colin Farrell de Michael Mann. Mission Impossible évidemment, qui a quand même ensuite bien perduré puisqu'il y a eu 4 opus. Opus. Et Starsky et Hutch aussi, que je n'ai pas vu, mais qui a eu de très bonnes critiques avec Owen Wilson. Il paraît que c'était assez drôle. Et Ben Stiller, voilà. Il paraît que c'était assez réussi.
Et du côté des Français, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est toujours pareil. On n'est pas des spécialistes des séries.
Il y a les Brigades du Tigre qui ont été adaptées, une vieille série.
Les Chevaliers du Ciel, ouais.
Et les Chevaliers du Ciel.
Camara Café. Camara Café aussi.
Ah oui, ah, oui, oui, ça, il fallait mieux l'oublier, ouais.
En tout cas, merci pour ce blind test et
avec grand plaisir.
Le dernier de l'année.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
j'ai allergique
sur Divergence FM.
Et maintenant, nous passons à Blanche-Neige et le chasseur. Alors, l'histoire n'a pas changé. Une méchante reine envoie un chasseur retrouver sa belle-fille, justement trop belle pour ne pas porter ombrage, à son pouvoir, et la tuer. Cette nouvelle version réussit là où le Chaperon Rouge, l'année dernière, avait lamentablement échoué et donné un côté sulfureux, donc moderne, au conte. Dépoussiérer le mythe, en faire ressurgir l'aspect intemporel, le tout avec des effets spéciaux à la pointe de la technologie et un budget équivalent au PIB du Mali. Tout de suite, la bande-annonce.
Ma reine, un nouveau royaume tombe pour ta gloire.
Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle entre toutes ?
Tu es la plus belle. Mais il en est une autre qui est destinée à te surpasser.
Qu'est-ce qu'elle me fait ?
Dévore son cœur. Et tu règneras. Pour toujours.
Trouvez-moi pour la traquer, quelqu'un que n'effraie pas la sombre forêt.
Lâchez-moi !
Et si je refuse ?
Qui es-tu ? Pourquoi la reine veut-elle te tuer ?
Tu dois le savoir puisque tu me traques !
Tu as des yeux, chasseur, mais tu ne vois rien. Elle est destinée à dissiper les ténèbres.
J'aurais dû la tuer quand elle était petite. Il me faut son cœur, gorgé de sang. J'ai vu ce qu'elle voit. Je peux la tuer. Je donnerai à ce misérable monde une reine à sa hauteur. Des lèvres rouges comme le sang, des cheveux noirs comme la nuit. Apporte-moi ton cœur, ma chère, chère Blanche-Neige. Qu'ils viennent à moi.
Tout était raccord dans le studio, excusez-nous.
Pardon. Si cette adaptation est extrêmement réussie, c'est parce qu'elle n'est pas une énième commande de studio, réalisée par un metteur en scène aux poches pleines et à la tête vide. Rupert Sanders signe là son premier film, et il en va de même pour son scénariste, mais ce parfait inconnu aurait été choisi grâce à la bande démo qu'il a présentée, regorgeant de trouvailles visuelles personnelles autour de l'univers de Blanche-Neige. C'est justement ce qui charme dans le film. En accentuant la noirceur du conte originel, le réalisateur n'a pas chômé côté création, inventant un univers très empreint d'héroïque fantasy mais semblable à aucun autre. L'inventivité est à son summum en ce qui concerne l'image, avec de très belles inspirations comme le miroir humain ou la forêt vivante, bien que l'on ne déroge pas aux clichés tenaces des films hollywoodiens en costume, tels que les plans sur des mains qui se promènent dans les champs de blé. Ça doit vous rappeler quelque chose en l'occurrence. Si le personnage de Blanche-Neige transformé un peu vite en Jeanne d'Arc forme un couple insupportable avec Chris Hemsworth, alias Thor, le super-héros au gros marteau, le personnage de la reine a quant à lui subi un lifting scénaristique des plus intéressants. Le film la transforme en allégorie de ce que la société crée de pire en termes de femmes, obsédées par l'apparence et la course à la jeunesse, haïssant les hommes, consumées par le pouvoir. Une sorte de féministe, bon, un peu radicale, qui extermine les hommes en leur arrachant le cœur, enfin, rien de grave, je veux dire, et veut se hisser au sommet de la société par esprit de revanche pour ne plus jamais subir leur domination. Charlize Theron compose un personnage si charismatique qu'il en éclipse tous les autres, hystérique à la limite de la schizophrénie, et devient dès les premiers instants la véritable héroïne du film. Les effets spéciaux n'ont jamais, à mon sens, atteint un tel niveau, en particulier les anamorphoses de vieillissement qui sont les plus réussies qui nous aient été données de voir, de même que les costumes et les décors créent une ambiance gothique et morbide jusque dans les moindres détails. C'est donc une réussite presque totale, même si l'on n'échappera pas à la morale bien américaine et légèrement racie, qui voudrait que la perfection féminine soit toujours un idéal de pureté et d'innocence, sauvé par un mâle bien viril qui lui n'est pas innocent du tout et qui a le droit de massacrer tout le monde et de se bourrer la gueule. Parce que bon, le coup de la pureté, ça fait quand même 2000 ans hein, qu'on nous le fait, depuis qu'une nana mythomane a accouché en étant supposée être vierge. Et Hollywood continue de relayer cette idée bien arriérée. Et bon, ça sera un sujet dans mon livre « Féminisme et cinéma » que je publierai très bientôt, qui est encore en pleine préparation. En tout cas, voilà, je vous le conseille quand même, malgré tout. Et ça passe au Royal, au Gaumont.
Et plutôt en bonne place, d'après ce que j'ai vu, en tout cas pour le Gaumont Multiplex, voilà, parce que beaucoup d'horaires.
C'est très réussi, oui. C'est à voir. En plus, vous pouvez le voir en VO au Gaumont Comédie. Donc, à pas rater.
Merci Marine.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Et nous arrivons à la toute fin de cette émission et l'agenda va être exclusivement consacré à une soirée. C'est la soirée Close-Up, une soirée de projection de courts-métrages et de rencontres. C'est ce vendredi 22 juin, salle Rabelais à Montpellier.
Je me suis jamais senti aussi seul qu'avec toi.
Voilà, donc nous recevons par téléphone Mathieu. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, donc eh bien merci d'être sur l'antenne de Divergence. Tu fais partie de l'association Armagnacs, donc qui organise cette soirée Close-Up, première du nom. Alors le principe, c'est qu'on va voir des courts-métrages. Alors est-ce qu'ils sont réalisés finalement par des réalisateurs de la région ? C'est le cas, en tout cas, de ce film qu'on vient d'entendre en extrait, « Tout n'est pas si rose », mais des autres.
Oui, alors celui-là a été fait à Montpellier il y a pratiquement un an maintenant. L'idée, c'était aussi justement d'inviter un Montpelliérain et avec lui d'amener des réalisateurs venant d'ailleurs justement, d'inviter des Parisiens, des Marseillais, des Lyonnais et de les faire venir à Montpellier pour présenter leurs films et qu'ils puissent rencontrer ainsi les intermittents de la région, les réalisateurs de la région, les producteurs et voilà. Enfin, qu'il puisse justement y avoir un échange entre les gens qui ne sont pas forcément, qu'on ne soit pas forcément de lien avec Montpellier, mais qui veulent venir présenter leur film dans une ville justement un peu plus loin de leur contrée habituelle. Et puis voilà, pouvoir peut-être créer aussi des échanges pour des réalisateurs montpelliérains de présenter leur film du coup à Paris avec des échanges de ce style-là. C'est l'idée justement de centrer sur Montpellier, mais en même temps de pouvoir aussi avoir une ouverture sur d'autres villes et d'autres réalisateurs et voir des films qu'on voit pas forcément à Montpellier dans les festivals habituels ou dans les soirées de projection habituelles.
Et en tout cas,
voilà,
c'est
en gros le principe.
En tout cas, c'est une bonne sélection. Donc là, c'était Tout n'est pas si rose de Jesús Glaser, donc avec un choix d'actrice un peu contestable, mais sinon. Non, c'est une private joke puisque c'est Marine qui joue le rôle. Donc l'histoire, hein, dans les méandres de la ville, un homme saoul s'égare dans une rue sombre, sur son dos une jeune femme donc bien silencieuse et très attirante. Voilà, donc c'est tout ce qu'on vous dira en tout cas, et c'est à voir donc ce vendredi 22 juin. Et il y a un autre film, donc là pour le coup c'est pas un réalisateur de la région, c'est Benjamin Parent avec Ce n'est pas un film de cow-boy, et qui lui pour le coup a été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes, qui a remporté un prix, hein.
Exactement, bah nous c'était notre coup de cœur quand on était à Cannes, on avait beaucoup de courts-métrages, surtout des courts-métrages, et ça a été celui qu'on a préféré largement. Il est très très drôle, il est très fin, très bien écrit. Enfin, je crois qu'en plus c'est un de ses premiers gros courts-métrages produits, parce qu'il est coproduit par Canal+, et Cinecdoc, qui est une boîte de production sur Paris. Et ça a été nous vraiment le film qui nous a le plus marqué, donc on est très heureux de pouvoir l'accueillir, parce qu'on s'attendait pas trop à ce qu'ils acceptent, puis en fait ils ont été très enthousiastes aussi. Donc voilà, malheureusement le résultat est en tournage. Il ne pourra pas être présent, mais on compte bien justement, bah, vu qu'il est en tournage, bah, à la prochaine soirée close-up, l'inviter pour qu'il nous montre son nouveau film qui est en train de tourner.
Et bien, pour aller chez l'auditeur, on va écouter un petit extrait.
Je vais te demander un truc. T'as vu, toi, le film à la télé hier soir, Brokeback Mountain?
Non, j'ai pas le droit de regarder la télé. Ma mère trouve que c'est abruti.
Mais à ce qui paraît, c'est un super bon western, non?
C'est pas un western. Il y a des cow-boys et tout. C'est un truc nouveau.
C'est quoi?
C'est genre... C'est un western de PD.
La suite, ce vendredi. Donc, Sal Rabelais, c'était Ce film n'est pas un film de cow-boy. Alors ensuite, il y a À 3 sur Marianne. On va devoir aller très vite parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, À 3 sur Marianne de Romain Laguna.
Alors pour le coup, c'est un film qui a un rapport avec Montpellier, parce que c'est un Montpelliérain qui est désormais à la FEMIS, qui est étudiant à la FEMIS, et qui a tourné son film à Béziers l'été dernier aussi. Donc c'est un film un peu social, qui dans un contexte d'élection, second tour entre Le Pen et Chirac. Bon, c'est juste le contexte, hein. C'est pas un film politique, mais c'est le contexte de l'histoire. Et ça montre un petit peu justement l'adolescence de campagne du Sud, on va dire, qui est un peu mise à l'écart, et qui se met aussi à l'écart elle-même. Et le quotidien de 3 jeunes qui sont dans leur mode de vie, mobilette, foot et filles. Et c'est un film très, très bien joué par des acteurs amateurs, mais qui sont révélés très, 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 très bons. Et donc, voilà, on est très heureux de pouvoir accueillir le producteur qui va venir présenter ce film vendredi soir.
Et le réalisateur donc se dit inspiré par La Haine de Kassovitz, Paranoid Park de Gus Van Sant et Ma Cité va craquer de Jean-François Richet. Donc, on voit à peu près bien où il va aller. Alors ensuite, il y a des elfes d'animation de Pierre Henquin et Sylvain Julien. On n'a pas vraiment le temps d'en parler, donc on va passer au suivant. Ce qui marche contre le vent de Bastien Simon, qui a été récompensé au festival Paris Cours de Vent. Mathieu?
Oui.
Voilà, donc ça c'est Ce qui marche contre vent, ce sont donc ceux de la rue, l'histoire d'hommes et de femmes sans abri, et c'est tiré d'un livre de François Bon. C'est ça.
C'est ça. Ce sont des sans-abri qui, en fait, qui jouent. Donc, c'est des sans-abri. Donc, encore une fois, des acteurs amateurs qui, en fait, vont jouer ces textes et les. Enfin, vous verrez, je vais pas en dire trop non plus, mais ces textes sont dits et on les voit évoluer dans des univers et qu'ils interprètent ces textes, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Il y a eu un gros travail entre justement cette adaptation de textes au cinéma par des sans-abri qui jouent leur rôle, enfin le rôle des sans-abri.
Mathieu, il faut que tu sortes du tunnel là, parce que je crois que...
Je suis désolé, je suis en périphérique parisien, c'est un peu, voilà, je suis en double fil là, c'est pas évident.
D'accord, ok. Bon ben merci en tout cas. Et alors on va écouter un petit extrait.
Moi ma vie elle est foutue. Parce que tout ce que j'ai sur le cœur ça va se perdre. J'ai trop souffert. Pour ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment un bouquin qu'il faudrait. Je peux pas dire tout ce que j'ai sur le cœur.
Voilà, donc un extrait de Ceux qui marchent contre le vent, présenté donc avec d'autres courts-métrages dont on vient de parler à cette première soirée close-up. C'est ce vendredi 22 juin, salle Rabelais à Montpellier. Alors à quelle heure ?
À
20h. Et donc la soirée se poursuivra par un verre au bar du musée dans lequel vous bénéficierez grâce à votre ticket d'entrée d'un tarif préférentiel sur les consommations. Mais quel est le ticket d'entrée finalement ?
Parce... Il se fait au lancer de dés.
Ah, au lancer de dés, voilà. Très original.
Quelle équipe originale. C'est entre 1 et 5 euros.
Bon, ben merci beaucoup, Mathieu.
Merci à vous.
Et sors à la prochaine bretelle Porte d'Auteuil.
C'est ça, c'est presque ça en fait. Bon. Porte de Clichy.
Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève Cinérama, presque.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
J'ai juste envie de dire que Lucas Bellevraud sera présent à Frontignan au festival du roman noir, voilà.
Voilà, mais on vous retrouve en septembre, espérons. Peut-être. Merci à Stéphane Bouillet d'avoir été présent aujourd'hui. Et tout de suite après l'émission, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes consacrées cette semaine à la mort aux trousses.
Bel été.
À bientôt.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.